Chapitre 73. Retour à Justin. Laissant au frère Dominique, désormais rassuré sur la vie et l'honneur de son père, franchir rapidement, le cœur plein d'espérance et de joie, la courte distance qui sépare Vanvres du Bas-Meudon, où il trouvera, attelé et prêt à partir, la voiture funèbre qui renferme le corps de Colomban. Et revenons à Justin, que nous avons vu s'élancer à franc étrier sur la route de Versailles, muni par l'intermédiaire de Salvator des instructions de M. Jacal à l'endroit de Mme Desmarets. Pour ceux de nos lecteurs auxquels le caractère du maître d'école, empreint d'une apparence faiblesse, a semblé ne pas mériter tout l'intérêt qu'il inspire à Salvator, à Jean-Robert et à nous-mêmes, nous dirons que cette résignation, qui au premier abord a pu être prise pour un manque d'énergie, nous paraît à nous au contraire une des belles formes de la force. En effet, il ne faut pas confondre le mouvement matériel, l'activité du corps, avec l'activité et le mouvement de l'esprit. Tel homme qui se croit très actif, qui tous les jours se meut, court, fait 2 lieues à pied ou en voiture, se remue beaucoup plus mais agit beaucoup moins que l'homme qui, du fond de son cabinet, fait éclore au bout de 10 ans d'apparent repos la pensée qui va bouleverser le monde. Mettez le maître d'école, cet homme si apathique à sa surface, aux prises avec la nécessité, et vous le verrez sortir de son apathie armé de pied en cap, prêt à combattre, préparé à mourir. Ce qui l'affaiblit aux yeux de ceux qui ne voient pas chez lui plus loin que l'épiderme, nous ne saurions trop le répéter car nous nous proposons de le démontrer dans ce livre, c'est la vie de famille sous laquelle il est courbé. La piété filiale qui, parfois faisant les grandes actions, parfois aussi fait les grands obscurs dévouements. Supprimer pour Justin ce mot sacré, cette chose sainte qui pèse sur lui, la famille, et vous le verrez immédiatement apporter sa pierre à ce monument social, antipode de la tour de Babel, que nous sommes tous nés pour élever d'une assise et que l'on appelle l'harmonie universelle. Supposez-le seul au monde avec des passions dont il n'est à répondre à personne que lui-même, et comme cette lumière de l'évangile cachée sous le boisseau, vous le verrez une fois le boisseau enlevé, répandre à l'instant tous les rayons autour de lui. Ainsi, quiconque eût vu Justin, faisant appel à ses souvenirs de jeunesse, s'élever en écuyer consommé sur le cheval de Jean-Robert, brûler le pavé, dévorer l'espace, franchir la distance, eût pu affirmer à coup sûr que c'était le bras d'un homme fort et le jarret d'un homme résolu qui dirigeait dans sa course furieuse ce cheval échevelé, bien plus semblable à un oiseau emportant sa proie qu'à un coursier arabe entraînant son cavalier. Après 1 heure de ce galop furibond, pendant lequel les pensées de Justin, empruntant quelque chose au train de sa monture, se pressaient rapidement dans son cerveau, il s'arrêta haletant devant la porte du pensionnat. Il avait mis un peu plus 1 heure, comme nous venons de le dire, à faire ses 5 lieues, et il était juste 8h30, quand, s'élançant à bas de son cheval, il sonna chez Mme Desmarets. On était levé depuis longtemps dans la maison. Mme Desmarets était seule dans sa chambre et n'avait pas encore achevé sa toilette. Justin lui envoya dire qu'il désirait lui parler à l'instant même. Tout étourdi d'une visite si matinale, Mme Desmarets fit prier M. Justin de l'attendre, lui demandant 1 quart d'heure pour se mettre en mesure de paraître devant lui. Mais Justin répondit que la cause qui l'amenait n'admettait, vu son urgence, aucun retard. Il suppliait la maîtresse de pension de le recevoir à l'instant même. Mme Desmarets, toute troublée de cette insistance, passa une robe de chambre et ouvrit sa porte pour descendre au salon. Mais Justin était debout devant la porte. Il prit la main de Mme Desmarets, étonnée, et la fit rentrer dans sa chambre, dont il referma la porte derrière lui. Alors seulement, la maîtresse de pension leva les yeux sur Justin, éclairé par la lumière des fenêtres, et jeta un cri. Elle était épouvantée tout à la fois de la pâleur mortelle imprimée sur le front du jeune homme et de la sombre énergie qui faisait le caractère principal de sa physionomie, d'habitude si douce et si inoffensive. « Oh mon Dieu, qu'est-il donc arrivé » demanda-t-elle. « Un grave malheur, madame, » répondit Justin. À vous ou à Mina ? À tous deux, madame. Ah, mon Dieu, faut-il que je fasse appeler particulièrement Mina, ou désirez-vous la voir vous-même ? Mina n'est plus ici, madame. Comment Mina n'est plus ici ? Où est-elle donc ? Je n'en sais rien. Madame Desmarets regardait Justin Courbis comme elle eût regardé un fou. Elle n'est plus ici, et vous ne savez pas où elle est. Que veut dire cela ? Cela veut dire, madame, qu'elle a été enlevée cette nuit. Mais hier au soir, je l'ai conduite moi-même dans sa chambre, où je l'ai laissée avec mademoiselle Suzanne de Valgeneuse. Eh bien, ce matin, madame, elle n'y est plus. « Oh, mon Dieu !» s'écria madame Desmarets en levant les yeux au ciel. « Êtes-vous bien sûr de ce que vous dites, monsieur ?» Justin tira de sa poche le papier écrit au crayon que lui avait remis Babolin. « Tenez, dit-elle, lisez plutôt. » Madame Desmarets lut rapidement le billet. Elle reconnut l'écriture de la jeune fille et, se sentant près de défaillir, elle jeta un cri en étendant les bras pour chercher un appui. Justin s'élança, la soutint et lui avança un fauteuil. « Oh, dit-elle, si cela est vrai, c'est à genoux que je devrais vous demander pardon de la douleur que je vous cause. »« C'est vrai, dit Justin, mais ne nous laissons pas abattre ni l'un ni l'autre, madame, à moins que nous ne soyons sûrs qu'il n'y a pas de remède à cette douleur. » « Et encore, quand il me restera plus d'espoir dans les hommes, il me restera l'espoir en Dieu. »« Mais que faire, monsieur ?» demanda la maîtresse de maison. « Attendre, et en attendant, veiller à ce que personne ne pénètre dans la chambre de Mina, ni n'entre dans le jardin. »« Attendre qui, monsieur ?»« L'agent de l'autorité qui doit se rendre ici dans une heure. »« Et quoi ?» s'écria madame Desmarets, plus effrayée qu'émue. « La justice va venir ici ?» « Sans doute, répondit Justin. « Mais si cela arrive, ma maison est perdue, reprit la maîtresse de pension. » Cet égoïsme blessa profondément Justin. « Que voulez-vous que j'y fasse, madame ? » dit-il froidement. « Monsieur, s'il y a un moyen d'éviter le scandale, je vous supplie de l'employer. » « Je ne sais pas ce que vous appelez un scandale, dit Justin, avec un froncement de sourcils. « Comment, vous ne savez pas ce que j'appelle un scandale ? » dit la maîtresse de maison en joignant les mains. « Le scandale pour moi, madame, reprit Justin, est qu'une femme à qui ma mère a confié sa fille, à qui moi j'ai confié ma femme, ose me dire de me taire quand je la lui redemande. » La réplique était si juste que madame Desmarets sembla anéantie. « Mais, monsieur, fit-elle éplorée, toutes les mères vont me reprendre leur fille. » « Et moi, madame, dit Justin, révolté de l'égoïsme de cette femme qui, devant une douleur comme la sienne, ne s'occupait que du tort que l'enlèvement de Mina pourrait faire à sa maison, et moi, madame, si j'étais votre juge, je ferais placer au fronton de votre pensionnat quelque écriteau infamant qui détournerait de cette maison toutes les mères. » « Mais, monsieur, votre malheur, à vous, ne s'adoucira point du tort que vous me ferez. »« Non, mais le tort que je vous ferai, madame, m'empêchera qu'il arrive à d'autres, un malheur pareil au mien. »« Au nom de l'affection que j'avais pour Mina, monsieur, ne me perdez pas. »« Au nom de la confiance que j'avais en vous, madame, ne me demandez rien. » Il régnait sur le visage de Justin une résolution si désespérée que madame Desmarets comprit qu'elle n'avait rien à attendre de lui. Elle parut donc prendre son parti, et d'un air résigné, « Il sera fait comme vous le voulez, monsieur, dit-elle, et je subirai silencieusement ma peine. » Justin indiqua, par un signe de tête, que c'était, à son avis, ce que madame Desmarets avait de mieux à faire. Puis, après quelques minutes d'un silence qui pesait comme du plomb sur le jeune homme et sur la maîtresse de pension, « Monsieur, dit celle-ci, voulez-vous, à votre tour, me permettre de vous adresser quelques questions ? Faites, madame. » « À quelle cause attribuez-vous la disparition de Mina ?»« C'est ce que j'ignore encore, mais ce que la justice m'apprendra, j'espère. »« Vous êtes bien sûr qu'elle n'a pas disparu volontairement. » Le cœur de Justin se gonfla à cet outrage fait à sa blanche fiancée. « Comment, vous qui l'avez depuis 6 mois devant les yeux, pouvez-vous m'adresser une semblable question ? Je vous demandais si vous étiez certain de son amour. » Vous avez lu sa lettre. Qui appelle-t-elle à son aide ? Alors elle aurait sans doute été enlevée par force. Sans nul doute. Mais monsieur, c'est impossible. Les murs sont hauts, les fenêtres solidement fermées. Mina aurait crié. Madame, il y a des échelles pour tous les murs, des pinces pour toutes les fenêtres, des baillons pour toutes les bouches. Êtes-vous entrée dans la chambre de Mina ? Non, madame. C'était la première chose à faire. Allons-y de ce pas, si vous voulez bien. Au contraire, madame, n'y allons point, je vous en supplie. C'est cependant le seul moyen de nous assurer qu'elle n'est plus là. Mais cette lettre, si par un calcul que je ne m'explique pas, si pour accomplir quelque dessein ténébreux, on vous avait envoyé une fausse lettre, si Mina n'était point enlevée, si elle était dans sa chambre. Quelque chose de pareil à un éblouissement passa devant les yeux de Justin. Il comprenait lui-même si peu de choses à ce qui arrivait que cette espérance, quelque insensée qu'elle fût, commença d'entrer dans son cœur. En conséquence, malgré les recommandations de Salvatore, il se décida à descendre et à aller avec Madame Desmarets jusqu'à la porte de la chambre particulière qu'habitait la jeune fille. Arrivée devant cette porte, Madame Desmarets, tandis que Justin, la main sur sa poitrine, comprimait les battements de son cœur, Madame Desmarets frappa doucement, puis plus fort encore. Ce fut inutile, personne ne répondit. Elle essaya d'ébranler la porte. Inutile aussi, la porte était fermée en dedans. Madame Desmarets proposa alors d'envoyer chercher le serrurier, mais Justin, que ce silence funèbre avait rendu à son premier désespoir, se ressouvint des recommandations de Salvatore et s'opposa formellement à ce que le serrurier vint ouvrir la porte. « Voyons du moins par le jardin, et l'on apercevra quelque chose à travers la fenêtre, » dit la maîtresse de maison. « Pardon, madame, dit Justin, mais l'entrée du jardin est provisoirement interdite à tout le monde. »« Même à moi ?»« À vous comme aux autres, madame. »« Mais enfin, monsieur, je suis chez moi. »« Vous vous trompez, madame. Partout où est la loi est chez elle, et au nom de la loi, je vous défends d'entrer dans ce jardin. » Et pour la plus grande sûreté, il enferma la porte à double tour, puis tira la clé qu'il mit dans sa poche. Madame Desmarets avait grande envie d'appeler, de crier, d'envoyer même au besoin chercher le commissaire pour mettre Justin hors de chez elle, mais elle comprit que ce jeune homme qu'elle avait toujours vu si humble et si doux n'agirait point ainsi s'il n'était sûr d'être soutenu. Quant à Justin, il s'appuya tranquillement contre la porte du jardin. « Comptez-vous rester longtemps en sentinelle contre cette porte, monsieur ?» demanda la maîtresse de pension. « Jusqu'à ce que les gens que j'attends soient arrivés. » « Et quand arriveront-ils ?»« Jamais aussi vite que je le désire, madame. »« D'où viennent-ils ? » ?»« De Paris. » »« Alors, dit Madame Desmarets, vous permettez que je vous quitte un instant, monsieur. »« Faites, madame. » Et Justin s'inclina comme pour donner congé à Madame Desmarets. Celle-ci remonta dans sa chambre, s'habilla rapidement, puis une fois habillée, ouvrit sa fenêtre et, à travers la persienne, plongea son regard sur la route de Paris. Au bout d'une demi-heure, à peu près, elle vit poindre une voiture qui s'avançait rapidement et qui s'arrêta devant la porte. Deux hommes en descendirent, c'étaient M. Jacqual et Salvatore. M. Jacqual allait sonner quand la porte du pensionnat s'ouvrit d'elle-même, ou plutôt fut ouverte par Justin, qui, ayant entendu le bruit d'une voiture et se doutant que cette voiture amenait M. Jacqual et Salvatore, accourait dans son impatience au-devant d'eux. Salvatore, voyant l'agitation et la pâleur du jeune homme, lui prit la main et, la serrant cordialement, « Allons, dit-il, courage, mon pauvre monsieur Corby, il y a, croyez-moi, des malheurs encore plus grands que le vôtre. » Et il pensait au malheur de Carmélite, revenant à elle, retrouvant la raison et apprenant que Colomban était mort.